Bonsoir Matt Damon.
Hi, how are you?
Bienvenue 28 minutes. Je vous présente l'équipe d'ailleurs de 28 minutes. Marjorie Adelson, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Claude Haskovitch.
Bonsoir.
Alors Matt Damon, on a eu la chance de voir Oppenheimer avant tout le monde et on a eu un petit problème de définition sur le film. Est-ce que d'après vous c'est quoi? Comment on pourrait le définir? Est-ce que c'est un film grand spectacle, un film politique, un film d'espionnage? Quelle est votre définition?
It's very tough to define.
Mais c'est vrai que c'est un film qui est très difficile à définir. Je pense qu'on peut aussi parler de thriller, mais même parfois de film d'horreur. Moi, en lisant le scénario, j'ai été très marqué, et encore plus par le film. Christopher Nolan est un réalisateur incroyable qui fait des films qui posent des grandes questions.
Alors,
Cambridge, Hollywood et Oppenheimer, c'est la règle de trois de Matt Damon. Cambridge, Massachusetts, c'est là que le petit Matthew a poussé son premier cri d'acteur en 1970, fils d'une professeure de fac et d'un patron de boîte d'investissement, tous deux adeptes de contre-culture. Américain, oui, mais pas moyen. Avec sa mère, cinéphile d'origine nordique, il se nourrit de films européens en VOST, Le voleur de bicyclette, Les 400 coups, etc. Il se déguise en pompier et sait déjà qu'il veut jouer toute sa vie. Il écrit même « Je veux être acteur » sur une rédaction. À ses côtés, avec les mêmes envies, un certain Ben Affleck, voisin, cousin, meilleur ami. À 13 ans, premier cours d'art dramatique, à 18, premier petit rôle dans Mystic Pizza avec Julia Roberts. Il court les castings, se rêve en Pacino, Gene Hackman et surtout Mickey Rourke, le gars le plus cool du monde. À Harvard, en littérature anglaise, le jeune Matt commence à écrire un scénario, ça s'appelle Will Hunting, l'histoire d'un jeune homme de la classe ouvrière, doté d'une prodigieuse intelligence. Il le finira avec Ben Affleck, jouera le rôle principal sous la direction de Gus Van Sant et entrera à Hollywood par la porte Oscar du meilleur scénario original.
We watched the show on TV last year. Now we're here in the middle of it. It's too much for us, you know.
La suite, on la connaît, une centaine de films chez Spielberg, Scorsese, Ridley Scott, les frères Coen ou 9 fois chez Soderbergh, notamment dans la série des Oceans.
C'est génial, c'est un grand star.
Drame, comédie, thriller, blockbuster, rien n'arrête Jason Bourne, son double de cinéma d'action.
Wow, you know, I never would have picked me to play this role.
Ni Matt Damon, l'acteur scénariste et transformiste, même pas les films plus politiques comme Invictus de Clint Eastwood sur l'ère post-apartheid ou Syriana de Stephen Kagan sur l'industrie pétrolière. À Hollywood, il a son étoile, mais reste l'acteur discret par excellence. Pour Oppenheimer, sur la vie du physicien surnommé père de la bombe atomique, ce fidèle retrouve Christopher Nolan après Interstellar.
Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero.
What do you want from theory alone?
Zero would be nice.
Il y joue Groves, un officier mal aimé qui engage le scientifique pour contrer les nazis sans se poser de questions philosophiques. Matt Damon ne juge pas, il joue l'Amérique comme il l'a toujours fait, toutes les Amériques.
Voilà Matt Damon, donc c'est ce qu'on appelle une carrière, hein, en tout cas cinématographique. Dans ce film Oppenheimer, vous jouez donc Leslie Groves, qui est officier de l'armée américaine, et c'est lui qui a dirigé le projet Manhattan, commencé en 1942. À titre personnel, quelle conclusion vous-même vous tirez du film à propos justement de cette bombe atomique? On voit qu'il y a un tel débat dans le film à propos de l'utilisation de cette bombe.
Mais écoutez, moi je ne pense pas qu'il y ait de réponse facile à ce genre de questions, et je pense que c'est ce qu'aime Christopher Nolan finalement. Ça a dû être une période incroyablement difficile à vivre. Du point de vue des scientifiques, ils n'ont rien découvert, ça existait. C'était juste une question de temps avant que cette bombe soit inventée. Et la théorie voulait que le régime nazi allait être le premier à se doter de la bombe atomique. Donc c'était une crise existentielle et c'est devenu une course à la bombe atomique. Et Oppenheimer était peut-être un peu naïf. Il pensait qu'à l'époque, cette bombe atomique-là, elle mettrait fin à toutes les guerres, à tout jamais. Moi, je pense que c'est un peu idéaliste, voire naïf avec le recul.
Alors, ce film épouse l'histoire, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et donc après. Et puis, quand vous avez commencé à tourner ce film, il n'y avait pas encore une guerre qui nous occupe aujourd'hui, qui est la guerre en Ukraine. Il y a une résonance incroyable avec la sortie de ce film cet été et la guerre en Ukraine.
Oui, sans le moindre doute. Chris Nolan et moi, nous avons le même âge. Donc, nous avons grandi, adolescent, en étant très conscient de la menace nucléaire. Au début des années 80, sous Reagan, c'était quelque chose que tout le monde avait à l'esprit, ce conflit entre les États-Unis et l'URSS. Et en tant qu'adolescent, moi je savais qu'une guerre nucléaire était possible. Et donc quand j'ai lu le scénario, j'ai dit à Chris, comment est-ce que j'ai pu me dire qu'à la fin de la guerre froide, la peur de la guerre nucléaire a disparu? Parce qu'en fait, c'est une menace qui continue à peser sur nous et la guerre en Ukraine l'a démontré une nouvelle fois. C'est vrai qu'on était sur le plateau de tournage et puis d'un jour, tout d'un coup, tout le monde a parlé de cette menace qui redevenait réalité.
Claude.
On a dit tout à l'heure dans votre portrait que vous jouiez la mairie. Vous êtes jeune, hein, mais qu'est-ce que vous imaginez qu'il restera de vous? Un acteur qui aura incarné différentes figures de l'homme américain?
I don't know.
Je ne sais pas trop, pour être honnête.
Good answer.
I don't know. It probably wouldn't be for me to say.
Je ne sais pas, ce n'est pas tellement à moi de répondre à cette question. Mais en tout cas, j'aime beaucoup jouer différents personnages américains. C'est vrai que mon pays est un pays où il y a une grande diversité. On a différents points de vue, on a différentes histoires aussi à raconter. Et souvent, on dit que j'ai le visage d'un Américain moyen, et donc je suis, on me donne ce genre de rôle, ou à contrario, on me donne des rôles qui contrastent avec ce visage, avec cette image qu'on peut avoir de moi. Parce que c'est vrai que j'ai l'air un peu d'un Américain moyen, c'est vrai.
Juste, le personnage que vous jouez, qui est un officier traditionnel, colonel puis général, qui travaille pour la patrie avec des gens qui étaient des dingues, des surdoués, des rouges, des communistes. Est-ce qu'une telle union sacrée en Amérique serait encore possible aujourd'hui?
Je pense que si c'était nécessaire comme ça l'était à l'époque, oui, pourquoi pas? Parce que ces scientifiques, il nous les fallait aux États-Unis. Donc on était prêts à surmonter leurs liens au communisme, etc. Tellement on était désespérés de voir ce projet Manhattan se matérialiser. Après, ça a été utilisé contre Oppenheimer pour tenter de le discréditer, de détruire sa réputation. Mais c'est vrai qu'il y avait des volontés politiques dont on parle dans le film.
Alors, vous avez différentes casquettes. Matt Damon, vous êtes comédien, vous êtes producteur, vous êtes aussi scénariste. Aujourd'hui, est-ce que vous privilégiez une de ces casquettes?
They all kind of mix together, actually.
Écoutez, c'est des rôles qui se recoupent, se croisent. Moi, j'aime bien produire des films. En fait, ce que j'aime, c'est la démarche. Avec Ben Affleck, on est en train de monter notre propre studio et on essaye de réaliser des films que l'on aime, mais on essaye aussi de récompenser toutes les équipes d'une manière différente. Donc, mieux partager les recettes du film, quelque chose qui est plus dans le droit fil de la vision que nous avons du cinéma.
Alors, vous avez un lien avec la France, Matt Damon. C'est une ville qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup, c'est Marseille. Forcément, vous avez joué un film là-bas et on va en parler avec vous, Marjorie, puisque la ville, justement, de Marseille, s'apprête justement à franchir un cap en matière de cinéma.
Oui, alors il y a Hollywood, hein, bien sûr, mais il y a aussi Marseille. Vous le voyez d'ailleurs, les lettres sur la colline sont déjà là, elles existent aussi. La cité phocéenne est la ville de France la plus filmée après Paris, 1200 jours de tournage, mais le gouvernement veut aller encore plus loin. Dans le cadre du plan Marseille en grand, la ministre de la Culture, Rima Aboulmalak, a annoncé en janvier dernier une enveloppe de 22,5 millions d'euros alloués à la ville. L'objectif, eh bien, c'est de faire de Marseille la capitale du cinéma et des tournages en Méditerranée. Alors, le plan prévoit la création d'une véritable cité du cinéma, hein, avec notamment une base logistique de plus de 4000 mètres carrés pour les tournages. Autre nouveauté, une antenne locale de la Cinémathèque française et une école de cinéma qui favorise la mixité. Matt Damon, vous aviez, vous, tourné à Marseille en 2021 pour le film Stillwater. Est-ce qu'à l'époque déjà, vous aviez senti le potentiel cinématographique de cette ville ?
Absolutely.
Oui, ça sans le moindre doute. C'est une ville que j'ai vraiment adorée. C'est un endroit où il fait très bon travailler pour le cinéma. C'est une ville extrêmement dynamique, donc on peut la regarder aussi sous différentes facettes. Il y a les calanques, il y a des paysages sublimes. Donc c'est une ville qui a tout et des habitants incroyables. Donc j'espère pouvoir y retourner pour filmer un jour. C'est une très bonne nouvelle de voir que le gouvernement français investit à Marseille parce que c'est un très bel endroit où faire du cinéma.
Vous me faites plaisir parce que je suis marseillaise.
Ah, cool.
Ah, bah, vous parlez français, vous voyez.
Non,
En ce moment, on parle beaucoup d'Hollywood parce qu'il y a une grève des scénaristes. Vous-même, alors, j'en reparlais tout à l'heure, je vous disais que vous étiez scénariste parce que vous avez eu un Oscar pour Will Hunting en tant que scénariste. Est-ce que c'est une grève qui vous inquiète d'ailleurs pour votre profession? Parce que, juste pour expliquer, s'il n'y a pas de scénario, bah, il n'y a pas de film et donc tout ça prend du retard. Ça vous inquiète, vous?
Les acteurs vont annoncer dans les deux jours à venir s'ils vont faire grève ou non. Donc on en saura un peu plus à ce moment-là. Après, tout le monde lutte pour la même chose et pour quelque chose de très important. S'il faut faire grève, on fera grève. On a voté d'ailleurs à 98% en faveur de cette grève pour que notre syndicat ait le poids nécessaire pour peser sur les négociations. Et pour moi, c'est très important que ces questions de rémunération soient réglées. Il faut qu'un acteur gagne $26,000 pour avoir la sécurité sociale. Et il y en a beaucoup qui sont juste à la limite. Et il faut donc pouvoir régler, ou plutôt pouvoir payer correctement les acteurs pour qu'ils puissent vivre de cette profession. Et c'est donc à nos négociations de faire le travail. S'il n'y arrive pas, on fera grève. Personne n'a envie de faire grève, personne n'a envie de travailler, mais il faut qu'on fasse attention.
Vous êtes dans une solidarité totale avec le jeune acteur inconnu qui, dans un état très loin, remote, essaye de faire de ce métier de dingue une profession. Vous êtes une star internationale, mais vous êtes aussi ce jeune acteur.
Oui, c'est vrai, je serai toujours ce jeune acteur au chômeur, quelque part au fond de moi. Si vous passez un peu de temps avec un acteur, ils vous diront que ce sentiment ne les quitte jamais. Donc, c'est quelque chose qui nous parle toujours. Et puis, il faut dire que c'est un métier extrêmement difficile. Donc, il faut qu'il soit le plus équitable et le plus juste possible. C'est pareil, d'ailleurs, pour les auteurs. Aujourd'hui, les scénaristes gagnent beaucoup moins qu'avant à cause des plateformes de streaming. Et ça signifie qu'il y a plus de barrières à l'entrée. Et pour rentrer dans la profession, il faut être appuyé, aidé par ses parents, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas cette chance-là au début de la carrière. Donc, ça va forcément avoir un impact sur le genre de scénarios qui vont être écrits à l'avenir. Nous, on veut ouvrir cette profession au maximum.
Mon fils est comédien, allez le voir à Avignon.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Matt Damon, d'être passé par 28 minutes. On a été ravis de vous accueillir. Oppenheimer, donc, ça sort le 19 juillet. Vous jouez aussi, bien sûr, avec Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., 19 juillet. Donc, à voir sur les écrans. Merci d'être passé.